En ces temps de crise du projet européen, s'il est bien une réalisation que tout le monde ou presque salue, c'est Erasmus. Cela fait déjà plus de 30 ans que ce programme existe, tirant son nom d'Erasme, l'un des pères de l'humanisme. Et ce n'est pas là un hasard. Il serait réducteur d'assimiler l'humanisme à un exotisme s'extasiant devant la différence. Cette pensée, chère à Erasme, l'humanisme, c'est la foi dans l'idée qu'au-delà de la diversité des couleurs, des religions et des langues, existent des aspirations communes à tous les êtres humains. Penser, créer, agir, s'exprimer. Et si Erasme était un symbole de l'espoir d'unité européenne, cette idée ne s'arrête pas aux frontières de notre continent. Aujourd'hui, près d'un tiers des étudiants français connaissent au cours de leur parcours académique un semestre ou une année à l'étranger. Nombre d'entre eux partent, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, dans le monde entier. Et si là aussi nous pourrions faire des généralisations et dire que tout n'y est que beuverie et musée, alors effectivement, je le concède, il y a beaucoup de beuveries, quelques musées parfois, mais ce serait louper l'essentiel. Parce que les voyages d'études, c'est aussi Erasme, c'est aussi l'humain. Pourquoi? Parce qu'à travers toutes les rencontres qu'ils y font, ils redécouvrent leurs propres conditions, celles d'être humains pensants, créant, agissant, s'exprimant. Nous sommes sur Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France, sur Internet partout ailleurs. Je suis Joachim Sarfati et j'ai le plaisir de vous présenter le premier numéro de La Casa des Babels. La Casa des Babels, c'est une émission au principe simple. Chaque semaine, 5 étudiants en mobilité à l'étranger nous ouvrent une fenêtre sur leur quotidien. Un regard sur la tradition et la culture, des témoignages sur ce qui est la vie locale, des paroles d'individus pour qui l'actualité globale a un impact bien réel et quotidien. En Écosse, au Canada, de Boston à Melbourne en passant par Sienne, nos reporters n'ont pas chômé cette semaine. Alors je vous propose dès maintenant de retrouver la première salve de reportage que nous vous offrons. À l'aube de la légalisation du cannabis au Canada, deuxième pays au monde à prendre une telle mesure, Théo Baucher a rencontré pour nous des étudiants, des commerçants et des citoyens de Toronto pour comprendre ce qu'un tel changement suscite dans les esprits.
Nous sommes à Hamilton, ville de 500 000 habitants au sud de Toronto, sur les rives de l'immense lac Ontario. Le 17 octobre prochain, le Canada deviendra le premier pays du G7 à autoriser la consommation récréative de cannabis. En 2016, selon l'Organisation mondiale de la santé, le Canada était le quatrième pays consommateur de cannabis, derrière l'Islande, les États-Unis et le Nigeria, et juste devant la France en cinquième position. On estimait alors que plus de 12% de sa population fumait du cannabis. Alors qu'en France cela représenterait un tournant sociétal majeur, on a voulu savoir comment s'y préparaient les Canadiens et ce que la législation allait changer pour eux. Nous rencontrons des étudiants de l'université de McMaster, Emma et Ashley, qui sont en troisième année. Les étudiants sont la principale population qui consomme du cannabis. On demande à Ashley pourquoi le gouvernement a passé cette loi.
Je pense que comme beaucoup de jeunes de notre génération fument déjà du cannabis, cela a encouragé le gouvernement à passer la loi pour le légaliser, afin qu'il puisse réguler sa consommation. Il y a eu beaucoup de cannabis de synthèse en circulation et cela a provoqué des overdoses. Ils espèrent qu'en encadrant la production et la vente, les gens viendront en acheter à l'État plutôt qu'à un dealer.
Pour Emma, la légalisation n'entraînera pas de changement majeur.
Depuis que l'annonce en a été faite, les gens ont considéré que c'était déjà décriminalisé et que donc ils n'avaient plus tellement de raisons de s'empêcher d'en consommer. Cela va encourager les gens à essayer, mais cela ne va rien changer pour ceux qui en consomment déjà habituellement.
Au final, Ashley explique que la consommation de cannabis est une pratique déjà démocratisée au Canada.
C'est quelque chose que tout le monde essaye, au moins une fois. Même si tu n'en prends pas tous les jours, tu te rends compte que ce n'est pas si grave de fumer. Ce n'est pas comme si c'était une drogue dure comme de l'héroïne. J'ai déjà fumé une fois et puis je me suis dit que c'était juste pas pour moi.
À Hamilton, on dénombre 162 points de vente, toujours illégaux, mais qui n'ont aucun mal à afficher d'immenses stickers feuilles de cannabis sur leur devanture. On est allé dans plusieurs de ces boutiques pour poser des questions aux gérants, mais à chaque fois ils refusent de répondre puisque leur business est hors la loi.
Finalement, on est arrivé chez Cassius, sa boutique est sur l'artère principale de la ville, entre un magasin de vêtements et un restaurant. Sa devanture verte ressemble à celle d'un pub, des feuilles de cannabis peintes sur le fronton. Les vitrines sont bâchées, et quand on entre, le comptoir se trouve tout au fond dans une autre pièce. Les trois quarts de l'espace sont vides, mais Cassius est là, accoudé sur un présentoir avec des bocaux remplis de marchandises.
I feel real comfortable being here and being able to help other people. I kind of feel like a pharmacist. That's what I would call myself versus people saying, oh,
j'aime ce que je fais. J'aime pouvoir aider mes clients. Je me sens plus comme un pharmacien. Oui, c'est comme ça que je me définirais, et pas comme un dealer, comme ce que pensent les gens. Nous sommes plutôt des pharmaciens. Ici, on sert des personnes qui ont entre 19 et 70 ans, et pour quelque motif que ce soit, pour cuisiner, pour apaiser des souffrances liées à une maladie grave, pour s'amuser le week-end lors d'un concert, ou pour s'occuper à la fin de la journée, à la place de boire une bière, ou pour accompagner une bière. Chaque jour, tu peux passer ici à 9h, avant d'aller au boulot, tu prends ton café, ton déjeuner, ton joint, et tu commences ta journée.
En Ontario, le seul point de vente légal dans un premier temps se fera sur le site internet de la Société ontarienne de cannabis, une filiale de la LCBO, le magasin d'État qui vend l'alcool. On demande à Cassius si cela risque d'affecter son commerce.
Non, les gens aiment les dispensaires comme le mien, parce que tu sais ce que tu achètes. Tu peux voir, tu peux sentir, tu peux toucher, tout ce que tu ne peux pas faire avec un site internet.
La législation à venir ne prévoit rien pour les vendeurs comme Cassius. Il reconnaît ne pas savoir ce que les petits commerces comme le sien vont devenir. Un projet de loi du gouvernement provincial doit être adopté d'ici avril 2019 pour décider du sort des magasins privés.
We fear that every day. It's just one of the things that comes with the job because it's not legal.
Bien sûr, on a peur constamment que la police débarque. À partir du moment où ce qu'on fait est illégal, ça fait partie du job. Mais contrairement à d'autres commerces, on ne fait pas de la pub pour le cannabis. On a peut-être la feuille sur la porte, mais c'est seulement pour indiquer qu'on est là, on n'est pas à distribuer des tracts dans la rue. C'est le bouche à oreille qui fait venir les consommateurs, et ils sont contents du service qu'on leur offre. On ne sait pas où la législation va nous emmener, même si on espère que l'aboutissement sera favorable au commerce privé, car on est en première ligne dans la vente de cannabis récréatif.
À Hamilton, comme dans le reste du Canada, on s'attend à une période de transition bancale. Les provinces et les villes ne savent pas encore comment appliquer la loi fédérale, les Canadiens ne sont pas non plus au fait de ce que la législation prévoit, mais les mentalités sont déjà bien ouvertes et préparées.
Merci encore à Théo Baucher pour ce superbe reportage. Nous restons dans la même zone, en Amérique du Nord, pour parler encore une fois de choses naturelles, organiques, comme il dirait là-bas, parce que nous allons à Boston, où s'est tenu le Boston Local Food Festival, avec Tiphaine Leproux, qui est allé un petit peu prendre la température de la société sur place vis-à-vis de ces nouveaux enjeux de consommation.
Soleil cuisant, ciel bleu, musique et jeux d'eau pour les enfants, l'été est encore bien présent ce dimanche 16 septembre 2018 au parc Rose Fitzgerald Kennedy, situé au centre de la ville de Boston aux États-Unis. Il est 10h30 du matin et déjà, les effluves des nombreux stands de l'annuel Local Food Festival, un grand marché de nourriture locale, embaument nos narines. Ils sont une cinquantaine de fermiers et pêcheurs armés de leur food truck et ils nous font découvrir des saveurs et aliments bio, sans pesticides, sans OGM, mais surtout produits localement dans les alentours de la ville. L'occasion pour eux de rencontrer d'aguerris ou futurs consommateurs et de les sensibiliser sur l'importance d'une alimentation saine et locale. Nous sommes ici car nous pensons avoir un rôle important à ce festival de nourriture locale. Nous faisons pousser nos aliments, comme des laitues fraîches et toutes sortes d'haricots, dans des fermes proches, 365 jours par an. Jackie Haynes, 27 ans, est adjointe marketing de l'entreprise Freshbox Farmers, une ferme locale située à 25 km de Boston. Elle est ici avec amis et collègues afin de promouvoir ses salades à base de légumes frais et organiques. Donc, nous cassons les barrières de l'agriculture traditionnelle en apportant de la nourriture fraîche directement aux consommateurs. Chaque année, depuis 8 ans, les habitants de la ville de Boston ou de sa banlieue viennent découvrir le lieu. Selon les organisateurs de l'événement, environ 50 000 visiteurs passeront d'ici la fin de la journée, un nombre qui croît avec le temps, l'indice d'une prise de conscience qui progresse. On observe un basculement dans la prise de conscience et les gens posent des questions. Ils veulent savoir d'où vient la nourriture et ce, plus que jamais auparavant. Lucina Dedoa a 62 ans et est fermière depuis 20 ans. Aujourd'hui, elle propose des tisanes et thés organiques de la marque Herbs and Providence. Pour elle, la préoccupation des habitants de Boston quant à une alimentation locale laisse encore à désirer. Probablement environ 20% des habitants font vraiment attention à la traçabilité de leurs aliments. En Europe, 20% du budget des consommateurs est alloué à la nourriture. Ici, aux États-Unis, ça concerne que 10% du budget. Les gens veulent de la nourriture rapide et bon marché. Rapide et peu cher, c'est souvent la solution idéale pour Kaylee, 20 ans et étudiante à l'université de Boston. Elle est venue ici avec des amis afin de goûter les différentes cuisines du festival. Elle explique être consciente qu'il est préférable d'acheter local, mais que le prix de tels aliments en constitue souvent l'obstacle majeur. C'est mieux d'acheter ses produits localement, mais pour les étudiants, c'est pas aussi rentable que d'aller dans une grande chaîne ou bien dans un supermarché. Je ne vais pas vraiment à des marchés de producteurs parce que je trouve que c'est plutôt cher et pas vraiment durable comme nourriture. Manger bien, une question de revenus, une affirmation encore vraie il y a quelques années, mais qui est discutable aujourd'hui, notamment pour Harris Lefteri, 30 ans, productrice de desserts grecs à base d'aliments bio et faits maison. Je pense qu'il y a un peu une idée fausse sur le fait que la nourriture saine et fraîche est tout de suite plus chère. Oui, les fast-foods sont moins chers, c'est clair. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fermes dans lesquelles on peut trouver des produits bons et peu chers. Et même ici, au festival, nos prix sont faits pour satisfaire n'importe quel consommateur moyen.
Chris Manson est directeur de la compagnie Grateful Burger. Aujourd'hui, son stand propose des hamburgers veggie ou bien à la viande de bœuf élevée en plein air à 15 km de Boston. Pour lui, privilégier une alimentation saine doit être surtout le fruit d'une réflexion sur pourquoi ces produits sont plus chers.
Ici, on parle de nourriture locale. On fait pousser des aliments et on élève des animaux dans de petites fermes qui n'ont pas la capacité de faire du profit comme la grosse industrie. Nos prix sont un peu plus chers qu'un hamburger moyen chez McDonald's. Et c'est justement pour cette raison. Donc on essaye d'être le moins cher possible, mais il y a un moment où c'est comme ça, et il faut juste essayer d'éduquer les gens sur la traçabilité de ce qu'ils mangent et leur faire comprendre la valeur d'un tel achat.
Prioriser la qualité sur le prix, pour Chris, ce sont les jeunes générations qui l'ont compris.
Je pense que les jeunes générations, je dirais 40 ans et moins, comprennent vraiment l'idée de manger sain et local. Les générations plus vieilles, 50, 60 ans, regardent mais ne goûtent pas forcément.
À Boston, la prise de conscience envers la nécessité d'une alimentation locale est là et elle continue de progresser. Impulsée par les jeunes générations plus présentes sur les réseaux sociaux où se propage la tendance du manger local, manger sain, il est maintenant question de transformer cette nouvelle mentalité en véritable geste du quotidien. Un processus en cours, mais qui laisse les producteurs optimistes.
Ça peut peut-être prendre plus de 2 ans pour progresser, peut-être encore 10 ans de plus, mais je suis optimiste.
C'était un reportage de Tiffen Leproux. Tout de suite, un petit morceau pour faire une pause de MGMT, Time Spent Looking at My Phone. Vous êtes sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France, sur internet partout ailleurs. C'était Time Spent Looking at My Phone. Tout de suite, le troisième reportage. Elle n'a pas passé tant de temps que ça à regarder son téléphone. Justement, elle a levé le nez pour voir un petit peu ce qui se passait autour d'elle. À Sienne, eh bien, ce sont les contrats. Je ne vais pas vous expliquer moi-même parce qu'elle le fait très bien. Un bon moment avec Céleste Grange-Piras.
De Toscane, en Italie. C'est un lieu au patrimoine unique et aux traditions ancrées dans la vie quotidienne. Le centre historique, encerclé par des murs, est divisé en 17 quartiers, appelés les contrades. On parle de contrades au singulier et de contrades au pluriel. Ces contrades s'affrontent lors de palio, ce sont des courses de chevaux traditionnelles de la ville. Chaque contrade possède un drapeau, une devise et est composée d'une communauté soudée. Les habitants revendiquent leur appartenance, qui est très importante à leurs yeux. Chaque année, il y a deux courses de chevaux sur la place centrale de la ville, qui s'appelle la Piazza del Campo. Seulement 10 des 17 contrades participent à la course. La contrada gagnante est celle dont le cheval effectue le plus rapidement les 3 tours de la place sur un cheval monté sans selle. La course en elle-même est très courte, un peu plus d'une minute seulement. Les personnes voulant assister au palio gratuitement depuis la place doivent arriver des heures en avance, mais l'ambiance sur la place en vaut la peine. Cette année, c'est un peu particulier, parce qu'il y aura un palio extraordinaire au mois d'octobre, pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Autour de la course, il y a tout un rituel de contrade. Les contradaioli, c'est-à-dire les habitants d'une contrade, sont bien plus que de simples supporters. Ils adoptent un mode de vie particulier. Des grands repas sont organisés chaque semaine dans les contrades. Il y a aussi des fêtes, des défilés, des contrades rivales et des contrades alliées. Tout cela fait partie des traditions populaires de Sienne. Le palio est une tradition qui suit un règlement très précis. Pour la course en elle-même déjà, mais aussi pour les événements qui l'entourent. Le tirage au sort des chevaux, le règlement des défilés, ou bien, comme nous allons en parler aujourd'hui, le tirage au sort des contrades participantes au palio. Tout est très codifié. Par exemple, chaque tirage au sort est précédé par le son des clairons que vous pouvez entendre maintenant. Dans quelques semaines, sur la Piazza del Campo, il y aura un palio extraordinaire. Cette situation de troisième palio n'est pas inédite. D'autres ont été organisées en l'honneur d'un personnage important visitant la ville, ou bien pour d'autres dates importantes, comme par exemple l'an 2000. J'ai pu assister il y a quelques jours, le 30 septembre, à l'estrazione, c'est-à-dire le tirage au sort des 10 participants au palio extraordinaire. Pour résumer, les Siennois attendent les résultats sur la Piazza del Campo et ce silence est ponctué par des hurlements de joie lors de l'exposition des drapeaux aux fenêtres du Palazzo Comunale. Lors d'un palio extraordinaire, la procédure officielle est la suivante. Le maire place dans une urne les noms de toutes les contrades, à l'exception de celles ayant renoncé à la course. Après l'annonce du début de l'extraction, faite par les clairons, le maire tire au sort la première contrada qui participera au palio extraordinaire. Le capitaine de cette contrada, tiré au sort, pioche à son tour un nom d'une contrada. Le capitaine de la seconde contrade fait de même, et ainsi de suite, jusqu'à avoir les 10 contrades participant au palio. La scène est très belle, car une fois le tirage au sort terminé, les drapeaux des contrades sont exposés dans l'ordre dans lequel ils ont été tirés au sort. Sur les fenêtres du premier étage du Palazzo Comunale, celles qui participent, et sur les fenêtres du deuxième étage, celles qui ne participent pas, toujours dans l'ordre du tirage au sort. Au-delà du suspense de savoir qui participera ou ne participera pas, ce sont les réactions des Siennois qui sont intéressantes.
Non, mais...
La place centrale de la ville, où se déroule le palio, est piétinée par environ 30 000 fidèles et curieux, impatients de voir quels drapeaux seront accrochés aux fenêtres du Palazzo Pubblico. Bien que très nombreux, les personnes réunies restent silencieuses dans les moments d'attente, et à chaque fois qu'une fenêtre s'ouvre et qu'un drapeau y est accroché, c'est l'euphorie sur la place. Un brouhaha contrastant avec le silence de l'attente qui suit les révélations. Beaucoup d'émotions, beaucoup de cris et quelques larmes.
Merci à Céleste Grange-Pierras pour ce superbe reportage. Tout de suite, nous allons à l'autre bout du monde. Nous partons d'Europe, nous partons d'Italie, nous allons en Australie, où se sont tenues à Melbourne des élections étudiantes. Et attention, ça change. C'est pas les mêmes élections étudiantes que chez nous. Vous allez voir. Atina Gendry pour Cause Commune.
Alors, cette année, tu as pu t'investir dans les campagnes étudiantes de Melbourne Université, début septembre. Comment est-ce que tu me décrirais la semaine d'élection ?
Yeah, well, so it is really tense.
C'était vraiment tendu.
La semaine de campagne, c'était surréaliste.
Eh bah, ben, c'était super intense. On voyait tout le monde courir de partout.
Les gens qui faisaient la campagne étaient super professionnels, la plupart d'entre eux.
Ouais.
Vraiment avec un discours super maîtrisé.
We get the training, we rip ourselves up for the entire week. We're walking up to people, we felt awkward, we felt bad. There was competition, it was a struggle.
On a eu des entraînements, on a motivé notre équipe et pendant toute la semaine, on a couru partout après tous les étudiants. On s'est senti inconfortable, mal. C'était comme une compétition ou une lutte.
Je dirais que c'était super court et intense.
Les élections étudiantes australiennes. Quelle ampleur à Melbourne University ? De quoi s'agit-il exactement ? Qui est-ce qu'on élit et pourquoi ? Alors pour vous donner un tableau général, ici les listes étudiantes pour les élections marchent par parti. À Melbourne University, il y a traditionnellement 4 partis. Les Melbourne Socialists, qui sont un tout petit parti. La droite libérale, relativement absente. Et les deux plus grandes listes en compétition chaque année depuis 35 ans. Les deux listes de l'aile gauche. More et Stand Up. J'ai pu observer les élections étudiantes et plus largement les étudiants représentants de l'Union dans leur vie quotidienne et leurs actions parce que je suis entrée à Stand Up début août et j'ai mené la semaine de campagne à leur côté. Ça a été extrêmement intéressant de comparer avec la France et de réaliser que l'équivalent français, le BDE, Bureau des élèves, n'avait absolument rien à voir avec les unions étudiantes australiennes sur place, et ce, sur plusieurs points. Annabelle, bonjour. Alors, tu es depuis janvier dernier la Welfare Officer. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de UMSU, l'Union étudiante de Melbourne Université ?
Alors oui, je suis la Welfare Officer de cette année. Je suis une étudiante internationale française et je me suis investie dans Stand Up il y a 2 ans déjà. Ouais. Alors je dirais que la majeure différence entre la France et ici, c'est que les élèves représentant l'Union ont une réelle marge de manœuvre sur des secteurs qui sont normalement pris en charge par des hauts conseils, en tout cas en France. L'éducation, le welfare, qui est le bien-être des élèves, le Women's Department pour les droits des femmes, ce sont les 3 départements les plus importants. Sous leur charge, il y a toute une déclinaison de départements spécifiques. Il y a le Queer Department, le département pour les personnes queer, le Disability Department pour les personnes en situation de handicap, et le Creative Arts Department qui couvre toutes les associations artistiques. Il y a en tout 14 positions, incluant 2 étudiants à chaque fois.
Donc l'union étudiante ici, en fait, c'est un vrai travail. Les étudiants représentants, ils sont payés, ils ont leur propre bureau. Ils sont en contact direct avec de grandes entreprises ou avec le gouvernement. Donc par exemple, pour la partie éducation, ils ont réussi à faire pression pour baisser les frais des élèves internationaux, qui étaient ridiculement élevés, c'était 40 000 dollars par an. Pour le département welfare, le bien-être, l'année dernière, ils ont mis en place un counseling pour les étudiants, c'est-à-dire un espace où n'importe quel étudiant peut aller parler à quelqu'un, trouver des groupes de support pour l'anxiété relative à l'université. Pour le Women's Department, ils ont réussi à organiser des manifestations à l'intérieur et à l'extérieur du campus. Tout ça explique pourquoi les élections étudiantes sont prises au sérieux à ce point. Les étudiants qui concourent peuvent être embauchés pendant 1 an par l'université. Ils ont la possibilité de mener des luttes avec beaucoup de moyens, de former des groupes de pression contre le gouvernement. Ça leur donne des opportunités considérables pour travailler en politique après le master ou après la licence. C'est pourquoi, pendant la semaine de campagne, les étudiants qui font campagne vont adopter ce qu'ils appellent un shark mood, qu'on pourrait traduire par une attitude de requin, ou très robotique, pour faire valoir les intérêts de leur groupe et à tout prix rentrer dans l'union étudiante. Pour ce faire, les partis vont avoir, en amont de la semaine d'élection, 2 semaines d'entraînement, qu'on appelle campaign training. Et ces 2 semaines d'entraînement, c'était pour moi la partie la plus intéressante. Pendant plusieurs heures par jour, la présidente nous a appris comment convaincre les étudiants via une structure de dialogue très précise. Elle nous apprenait aussi comment gérer l'autre liste. En fait, pendant la semaine, l'autre liste peut pratiquer ce qu'on appelle des interceptions, interceptions, des interruptions, en venant déstabiliser les discussions qu'on aura avec les étudiants du campus. Ce qui a rendu la semaine de campagne déstabilisante et difficile, mais d'un point de vue mental politique, c'était extrêmement instructif. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec le traditionnel cri de guerre du groupe en charge actuel, Stand Up, qui sonne beaucoup mieux en anglais d'ailleurs, mais qui peut se traduire par « Quand l'éducation, les droits des femmes et l'union étudiante sont menacés, comment fait-on ? Stand Up réplique. »
Merci à Atina Gendry pour ce reportage qui finit en nous donnant la pêche. Donc on va partir sur une petite musique, Man of Moon, Iron, et on sera de retour tout de suite après pour le dernier reportage.
I'll try. You know I'll be back again.
Vous êtes sur Cause Commune, c'était Man of Moon, Iron, un groupe écossais au passage, je le dis, puisque moi-même je suis en Écosse et que c'est un très beau pays, voilà. Donc faut rendre hommage aux richesses locales et voilà. Bah l'Écosse justement, on va terminer sur ce magnifique pays avec un reportage de Laura Lagache, tout en carreaux, vous allez comprendre, voilà, c'est très poétique.
Bien arrivé à l'aéroport, fin prêt pour le road trip écossais. Ça te dit, on s'achète un kilt? Ok. C'est le matin. Une heure de moins qu'à Paris. Le soleil se lève et se couche tôt. Le froid d'octobre frappe les corps. La brume pénètre les vêtements. Souvent, on oublie que Glasgow se situe presque au niveau de Copenhague en termes de parallèle. Mes premiers pas ici se sont faits au son du festival de la Cornemuse, en août, quand je tentais péniblement de pousser ma valise de 40 kilos sur les collines de la ville, en regardant au loin des types en kilt défiler sur les artères centrales. Alors finalement, s'acheter un kilt en friperie, c'était qu'un pas de plus vers mon intégration écossaise, non ?
Do you need a bag?
No, it will be.
And do you have student cards?
Yes. Okay.
Thank you. Okay, that's perfect. So that makes it $450. Oh,
yeah. Et on a fini par les acheter, ces kilts. Le truc chouette quand t'achètes un kilt en friperie, c'est qu'avant toi, quelqu'un l'a porté. Peut-être comme nous, par goût du folklore et du motif à carreaux. Ou peut-être par tradition. Chaque motif représentant un clan écossais a l'histoire bien spécifique. Chaque bande de couleurs, chaque fil de laine, est censé être disposé de manière reconnaissable afin d'affirmer son appartenance à une histoire, un territoire. Ce motif de carré et de ligne porte un nom. Le set, qui désigne à la base la manière dont le fil de laine est tissé pour créer le motif qu'on appelle tartan. Alors, depuis l'achat de ces kilts usés jusqu'à la corde dans une friperie des quartiers ouest de Glasgow, on a décidé de les porter à chaque fois qu'on voyagerait à travers l'Écosse. On était remarquables. Et remarqués. La culture du kilt est tellement présente que beaucoup d'Écossais ont pu identifier au premier coup d'œil le clan correspondant à notre tartan. Au château d'Elean Donan, un des plus connus d'Écosse, en plein milieu d'un lac, on s'est fait interpeller par un membre de l'équipe qui a essayé de deviner nos clans et qui a fini par sortir une énorme carte des clans d'Écosse. Vous serez ravis d'apprendre que mon accoutrement me relie au camp Napier, dont le siège historique se situe en plein milieu de l'université d'Édimbourg. La devise du clan, c'est « sans tâche ». D'accord, c'est pas la devise la plus sexy du monde, mais dans tous les cas, c'est assez incroyable comme ces pans de la culture écossaise sont faciles d'accès. Pas de mépris, mais au contraire, un regard amusé. Pas de regard en coin sur ses kilts, mais une volonté d'explication. Voilà. Je nage, peinarde, dans cette belle culture écossaise.
Et voilà, je n'ose même plus reprendre la parole, tellement ce reportage nous met dans une couverture bien chaude, bien douce, un kilt, mais voilà, un kilt encore plus chaud, encore plus doux. Et vu que nous arrivons au terme de cette première émission de la Casa des Babel, eh bien je voudrais évidemment remercier Théo Baucher, Tiffaine Leproux, Céleste Grange-Piras, Atina Gendry et Laura Lagache pour leur formidable travail. La semaine prochaine, ce sera 5 nouveaux étudiants dans des endroits parfaitement différents. Et pour ceux de cette semaine, comme pour ceux de toutes les suivantes, eh bien, sans aucun moyen sur place, munis de simples téléphones, ils nous ont fait voyager, ils nous feront encore voyager. La semaine prochaine, nous repartirons à la même heure. Cette fois, nous parlerons Brexit. Avant d'aller dans le froid norvégien, nous parlerons nationalisme basque et féminisme au Chili. Nous irons même jusqu'en Inde. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur Internet partout ailleurs. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site Internet d'ailleurs dans la rubrique podcast. Voilà, bonne journée sur Cause Commune.